Vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure des infos locales présentées par François Malabaf. Bonjour François.
Bonjour Emeline, bonjour à tous.
Au sommaire des infos de ce jeudi 13 mars, un seul sujet dont nous allons parler, la prostitution, ou plutôt la pénalisation des clients. Le 8 mars dernier, Digne a créé l'événement et se pencher sur la question lors de la journée de la femme. Notre collègue Odile Frison animait un débat sur le sujet. Elle est notre invitée, nous écouterons son reportage. Le cinéaste Hubert Dubois, mais aussi Gérard Biard et Claudine Le Gardinier ont répondu à ces questions, nous les entendrons.
Journal exceptionnel avec un seul sujet mais ô combien important dans une société qui sait plus très bien où elle va et dans une société qui ne voit plus non plus la place des femmes dans cette même société. Et le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, eh bien une action était initiée à Digne-les-Bains par nos amis notamment de Femmes Solidaires et c'est Odile Frison qui a suivi cette opération et j'ai le grand plaisir de l'accueillir en direct dans notre journal. Bonjour Odile.
Bonjour François.
On a l'habitude d'entendre votre voix lors de reportages de Digne et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure en écoutant le reportage sur cette opération. On peut, avant d'entrer dans le vif du sujet, rappeler comment s'est passée cette journée du 8 mars à Digne, journée particulière.
Alors il y a eu l'organisation par Femmes Solidaires de la Méditerranée des Femmes, dont le sujet était la prostitution, avec un film débat avec trois invités, un débat très intéressant, un public nombreux, une centaine de personnes au Ciné-Étoile à Digne.
Des hommes dans le public?
Alors quelques hommes quand même, on va dire quoi, une dizaine sur une centaine de personnes ou
c'est bien.
Peut-être, voilà.
Et je suppose, alors déjà l'organisation de Femmes Solidaires avec plusieurs associations, plusieurs personnes et personnalités, notamment Jacqueline Engrave, qu'on connaît bien et qu'on entend régulièrement sur notre antenne, pour défendre le droit des femmes. C'est elle qui a eu l'idée de cette journée du 8 mars à Digne.
Oui. Cette manifestation existe depuis longtemps, mais elle a présenté l'historique de cette journée du 8 mars, qui date quand même, qui a été instaurée par Clara Zetkin, qui est une journaliste socialiste allemande, et c'était il y a 104 ans déjà. Pour le droit des femmes, le droit de vote, le droit à l'avortement, enfin voilà, il a fallu beaucoup beaucoup de temps depuis cette journée pour que ça vienne en France
et on a fait un lien un peu particulier à Digne avec effectivement le droit des femmes avec le sujet, un sujet qui est d'actualité en ce moment, la prostitution.
Alors justement la prostitution, oui, c'est le sujet parce que la prostitution s'est profondément répandue et banalisée depuis de nombreuses années. C'est vrai que c'est un film de Hubert Dubois et c'est son troisième film sur le sujet. C'est vrai que c'est banalisé, les gens, et ça a créé d'ailleurs, il y a une loi qui a été votée en novembre dernier, novembre-décembre dernier, une loi sur la prostitution avec le débat et les termes du débat qui ont changé depuis 4-5 ans.
Avec notamment la pénalisation client.
Surtout, alors ils insistent sur la responsabilité du client prostitueur et la pénalisation ensuite. Voilà.
Donc on s'attaque au secteur marchand de la prostitution, autrement dit aux clients. On va écouter évidemment les reportages que vous avez réalisés, notamment l'interview d'Hubert Dubois et des autres partenaires. Mais tout d'abord, Jacqueline Engrave.
Alors Jacqueline Engrave, voilà, qui présentait avant le film rapidement les invités et surtout le thème de la prostitution et de l'engagement de Femmes Solidaires.
Et on se retrouve tout de suite après. Jacqueline Engrave.
Le système prostitutionnel est constitué de plusieurs acteurs, les proxénètes d'une part, les personnes prostituées d'autre part, et il y a enfin un troisième acteur qui était jusqu'à une période très récente complètement occulté, ce sont les clients de la prostitution.
Pour moi, c'est très très important que mes films ne servent pas seulement à un passage en télévision, mais qu'ils servent également pour les débats publics. Pour moi, c'est l'autre vie de mes films, et donc merci à Femme Solidaire de m'avoir invité et d'organiser cette projection. Donc voilà, j'ai voulu passer la frontière et interroger ses clients. Donc j'en dirai plus après, on va regarder ce film. Votre projection est à tout à l'heure.
Le préambule de la soirée cinéma et débat à Digne le 8 mars dernier. Odile, après le film qui a été projeté, dont on va parler notamment dans les interviews qui vont suivre, comment s'est déroulée la soirée? Il y a eu les échanges, comment ça s'est passé?
Alors, Jacqueline Engrave a présenté, bien sûr, au départ, les invités rapidement.
La salle aussi a été sollicitée.
Alors, la salle a été invitée après. Après, il y a eu d'abord de longs échanges autour de ce thème avec le réalisateur, notamment pour savoir comment s'était passé le film. Enfin, bon, c'est un grand reporter qui a fait beaucoup de documentaires et il a souvent des subventions, mais contrairement à tous les autres films autour du sujet de la prostitution, il en parlera. Il y a vraiment des blocages. Le CNC, le Centre National de Cinématographie, n'a rien donné ou il a eu 30 000 euros pour un film sur les clients, justement, contrairement à pour le film Enfant Forçat, sur le droit des enfants dans les pays où les enfants travaillent et sont exploités, il a eu 675 000 euros pour... Donc voilà, sur deux
22
sujets.
22 fois plus.
Voilà, sur deux sujets. Et puis, bon, il explique clairement que le débat sur la prostitution, même les médias banalisent en général les putes, on en a marre. C'est, comme le dit Claudine Le Gardinier, c'est très banalisé. Et puis, suite à cette loi, bon, elle trouve quand même que c'est très encourageant qu'une loi soit votée en France pour enfin pénaliser, voilà, que ce soit voté au Sénat, c'est quand même une grande avancée.
Ça n'a pas plu, vous le savez, à 343 sombres avocats.
Voilà, justement, il y a eu un manifeste.
Qui ont mis ça en relation avec des femmes qui réclamaient leur droit à l'avortement dans les années 70. C'est assez scandaleux. Et de voir ces espèces de bourgeois parisiens réclamer le droit à l'exploitation sexuelle des femmes, ça a heurté beaucoup de conscience dans notre pays. Je crois qu'ils ont pris il y a eu un retour de manivelle pour ces personnalités.
Ce que dira Gérard Biard dans l'interview, c'est que justement, c'était le plus beau cadeau qu'il puisse avoir. Cette réaction, ça a permis vraiment de montrer vraiment la profondeur, enfin, du sujet, le responsabiliser le client et dans tous les domaines que ce soit, puisque il y a eu effectivement ce manifeste lancé par Antoine, le chanteur, et puis bien d'autres montrent qu'il faut pas toucher à nos prostituées, touche pas à ma pute. Enfin voilà. C'était vraiment une réaction très violente.
J'ai dit sombres abrutis tout à l'heure,
voilà.
Je maintiens.
On nous dit depuis des dizaines d'années, nous dit Claudine Le Gardinier, qui est spécialisée dans ces enquêtes, qu'en France, on aurait 18 000 à 20 000 prostituées. Elle dit que c'est un chiffre qui n'a pas bougé depuis 20-30 ans. On nous sert toujours les mêmes chiffres, alors que c'est faux. Et bien sûr, on n'a pas de chiffres réels. Mais en tout cas, ce ne sont pas que des filles de l'Est qui se prostituent ou des Africaines. C'est aussi de plus en plus de Françaises et de plus en plus d'étudiantes.
C'est un gros problème dans notre société, effectivement, les étudiantes qui se prostituent pour tout simplement pouvoir payer leurs études et qui n'y voient pas effectivement la marchandisation de leur corps et de leur sexualité, ce qui est assez dramatique. On va écouter vos interviews, Odile.
Oui.
On se retrouve tout de suite après. Je crois que votre reportage commence par une ambiance sonore tirée du film, justement,
il y a quelques secondes du début du film qui lance le sujet. Donc on va entendre l'ambiance du film et le réalisateur Hubert Dubois en premier.
Satisfaire les besoins irrépressibles des hommes, un argument largement répandu pour justifier la prostitution. La femme prostituée serait un exutoire aux agressions sexuelles et leurs clients, en quelque sorte, leur passion. Dans le débat sur la prostitution, on s'interroge toujours sur le sort des prostituées, jamais sur le statut des clients. Ils sont pourtant les autres acteurs clés du système. Qui sont-ils ? La solitude, la timidité, l'insatisfaction dans le couple, la peur de s'engager dans une relation, ces raisons reviennent constamment au cours de nos entretiens.
Déjà, ce que je dois dire, c'est que je l'ai réalisé, mais on a tourné à deux avec une consoeur, avec une femme, une journaliste. C'était très très important d'aborder les clients en couple professionnel, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'équivoque. Bon, c'était très important qu'il n'y ait pas de confusion dans la tête des gens et d'avoir en face d'eux des professionnels et d'avoir des entretiens clairs et non pas de complaisance ou de séduction avec donc ma consoeur. On a tourné ce film, il date un peu, mais les propos ne datent pas du tout, parce que la démarche du client est hélas toujours la même et bien ancrée dans notre société, on le sait. On a tourné ce film, je pense, en 2005, dans la région de Lille, un peu dans la foulée d'une enquête sociologique qui avait été faite à l'initiative du mouvement du Nid, par un sociologue, Saïd Bouamama, qui avait lui interviewé à l'écrit, je crois, de plusieurs centaines de clients, mais à l'écrit de manière confidentielle et anonyme. Nous, la difficulté, c'est que faire parler des clients à la caméra, c'était une toute autre histoire. Effectivement, il y avait un problème, c'est que même si dans la confidence, en discutant hors caméra, il n'y avait aucun complexe pour beaucoup de dire qu'ils étaient clients et même d'argumenter sur le bien fondé de leur démarche. Après, pour parler, c'était pas du tout évident. Et en fait, on se rend compte, c'est un petit peu, je veux dire, la faiblesse du film, c'est que ceux qui osent parler, c'est les plus naïfs, qui disent de manière tout à fait commune et normale leur démarche. Mais en revanche, et en m'appuyant sur le document du sociologue, on se rend compte que, dit par cette tranche de population assez étroite, finalement ça reflète complètement la démarche de toute la sociologie de la prostitution qui s'étale sur toute la société finalement. Parce que on a rencontré des médecins, des notaires, des commerçants, et finalement ceux qui parlent c'est des chauffeurs de taxi, c'est des représentants de commerce, des chômeurs. Donc en fait, sociologiquement on n'est pas représentatif, mais sur le propos on l'est tout à fait. Donc apparaissent à travers leurs propos tous les clichés que l'on connaît, plus le métier du monde, nature humaine, pulsion, les femmes qui aiment ça, etc., etc. Et donc on a décortiqué après tous ces propos donc pour faire ce film.
Vous travaillez actuellement, vous avez sorti le film Les survivantes de la prostitution.
Et alors ça, c'est le dernier film que je viens de finir, qui a été diffusé sur LCP au mois de février. C'est un film qui parle finalement de l'intérieur, c'est-à-dire ce sont des femmes qui ont été prostituées et qui ont eu le courage de parler, mais après un long travail sur elles-mêmes pour comprendre ce qui s'était passé. Pour l'une d'ailleurs, même dire très clairement qu'elle l'a dit, qu'elle est rentrée volontairement dans la prostitution, mais après tout un travail sur elle-même, elle s'est rendue compte effectivement donc que c'est une violence et qu'elle a subi une violence qu'elle pensait être volontaire, mais qui était finalement formatée par son éducation, par son passé, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort beaucoup de ce film sur les survivantes, c'est que beaucoup de femmes pensent, disent, et ça arrange beaucoup la société, de dire qu'elles sont volontaires, alors que en fait, il y a tout ce formatage, tout ce passé, souvent on se rend compte qu'elles ont vécu des choses très très graves dans leur enfance, inceste, viol, etc. Et qu'il y a une forme de normalisation dans leur éducation, qui fait que bah, finalement, alors pour X raisons, souvent, même très 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 souvent économiques, bah, finalement, c'est un métier comme les autres. Et en démontant par elles-mêmes leurs propos et en analysant elles-mêmes leur passé, elles témoignent et elles s'engagent maintenant donc dans les rangs abolitionnistes. Voilà, c'est l'autre film que je viens de faire. Mais j'en ai fait trois autres. En fait, c'est une très très longue histoire qui a commencé en 2000, où j'ai fait un premier film sur la traite des êtres humains, des pays de l'Est vers nos pays chez nous, et puis un autre film sur le système hollandais réglementariste, et puis le quatrième sur la prostitution sur le réseau nigérian.
On peut dire que vous êtes complètement abolitionniste.
Oui, tout à fait, mais on le devient. C'est-à-dire qu'au début, j'avais aucun point de vue, parce qu'en fait, j'étais comme tout un chacun. C'est vrai que dans notre éducation, dans notre culture générale, au début, j'étais tolérant. Enfin, je me disais, bon, bah, finalement, c'est un libre choix de chacun, entre adultes. Et quand j'ai fait ce premier film sur la traite des êtres humains, pour moi, les seules victimes de la traite, c'était ces femmes qu'on enlevait des pays de l'Est, qu'on battait, qu'on violait, qu'on forçait, etc., pour venir chez nous. Et le seul scandale, il était là. C'était pas la prostitution en elle-même. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte en tournant ce film que même celles qui étaient dans les endroits les plus sordides, dans les conditions les pires, étaient dans une forme d'aliénation qui leur faisait dire qu'elles étaient consentantes et qu'elles allaient vers là où il y avait un marché et de l'argent à faire, c'est-à-dire le business et notre monde occidental. Comme pour eux, c'était la chute du mur. Pour beaucoup, l'Occident, c'était l'argent, le business, la liberté. Finalement, il n'y avait pas de raison de ne pas aller là où il y avait toutes ces, entre guillemets, valeurs, mais dévoyées par la vente du corps. Donc pour elle, c'était... Alors c'est ça, effectivement, qui m'a fait comprendre que la notion de volontariat, est dit par ces femmes dans cette démarche-là, n'avait pas valeur d'acceptation. Donc après, j'ai effectivement beaucoup plus réfléchi, et entre autres avec La vitrine hollandaise, donc le second film, étudié sur place l'application d'un tel axiome faux de séparation entre la bonne prostitution, soi-disant celle faite par des volontaires, et la mauvaise, celle qui était la prostitution forcée, que en fait tout l'ensemble de la prostitution était une forme de violence. Donc après, de fil en aiguille, j'ai enchaîné sur les films, quoi.
Votre film sert maintenant comme outil pédagogique?
Ben oui, j'en suis très fier, parce que finalement, pour faire des films, il faut une chaîne de télévision. C'est là qu'est tout le moteur économique, mais c'est une diffusion maintenant certainement plus. Puis il y a le web, mais ça n'empêche que rencontrer un public associatif, être avec ses outils de réflexion, pour moi c'est très très bien, quoi. Je suis très très content, effectivement, que ces films aient une autre vie, une vie associative et une vie politique, quoi.
Vous n'avez reçu aucune aide financière du Centre National de Cinématographie?
Ah, pour ce film-ci, non. Celui sur les clients, non. Alors, une sorte de boycott, je n'en sais rien. Mais ce que je peux dire, c'est que sur le dernier, Les Survivantes, il y a une autre aide pratiquement automatique qu'on n'a pas eu non plus. On n'a pas eu non plus. Les échos qu'on a eus, c'est que c'était encore un film de féministes qu'elles font chier, quoi.
On va passer à Gérard Biard. Vous êtes rédacteur en chef du journal satirique Charlie Hebdo, mais vous êtes invité aujourd'hui pour une toute autre raison. Vous êtes fondateur ou cofondateur de l'association Zéro Macho.
Oui, alors donc c'est une association, enfin c'est un réseau qui est né il y a à peu près 2 ans à l'initiative de Florence Moreno, qui avait depuis longtemps envie de réunir des hommes autour du thème « ceux qui refusent la prostitution », qui refusent le système prostitueur en tant que système, et ceux qui ne sont pas clients. Au départ, elle a réuni des gens qu'elle connaissait, évidemment. Moi, je la connais depuis une quinzaine d'années. Donc, elle a réuni aussi Patrick Jean, réalisateur de La domination masculine, Frédéric Robert, qui est un chef d'entreprise, enfin voilà. Nous sommes actuellement 3 porte-parole. Nous avons cofondé ce réseau, qui, ma foi, a reçu un accueil qui nous a nous-mêmes surpris. D'une part médiatique, parce que d'un seul coup, on s'est dit, tiens, pourquoi des hommes ont envie de parler de la prostitution? Et surtout, pourquoi ils ont envie de dire qu'ils n'acceptent pas ce système? Donc, il y a eu une énorme curiosité à ce niveau-là, qui a alimenté, bon, ça tombait bien, ça a alimenté le débat autour de la loi d'abolition. Et on s'est aperçu au fur et à mesure que le débat s'approfondissait, qu'on allait de plus en plus sur le fond même du sujet, qu'on avait de plus en plus de gens qui nous rejoignaient, qui signaient notre manifeste. On en a eu énormément, par exemple, quand les 343 connards ont sorti leur espèce de, voilà, leur manifeste. Et là, on les remerciera, enfin, les abolitionnistes ne les remercieront jamais assez, parce que ils ont mis en lumière ce qui se cache vraiment derrière le discours réglementariste. Ils ont retiré le faux nez, quoi. Et on a eu des centaines et des centaines de signatures en quelques jours suite à ce manifeste imbécile, mais qui a fait beaucoup de bien à la cause.
On a vu qu'il y a eu des manifestations violentes à Toulouse aussi, suite à une manifestation aussi contre la prostitution par le Stras.
Oui, alors ça c'est bon, c'est l'éternel problème du Stras, qui considère qu'une association comme Zéro Macho, par exemple, n'est pas légitime à intervenir dans une manifestation contre la loi espagnole qui rétablit l'interdiction de l'IVG. Donc d'abord, le Stras, qui sont-ils pour décider de qui est légitime ou non à participer à une manifestation? Et puis là aussi, eux, à cette occasion, ils ont aussi révélé ce qu'ils sont vraiment. Ils ont quand même venu perturber ce qu'ils font régulièrement, une manifestation pour les droits des femmes. Et ils l'ont fait avec des méthodes qui rappellent quand même étrangement celles des réseaux pro-vie, des réseaux justement anti-avortement. Donc, bon, à cette occasion, justement, on a fait un communiqué pour réagir et pour un petit peu mettre ce sujet en évidence. Parce que moi, je commence sérieusement à m'interroger qu'y a-t-il vraiment derrière ce soi-disant syndicat des travailleurs du sexe ? Est-ce que ce serait pas plutôt le syndicat des patrons du sexe ? Moi, personnellement, j'en ai la conviction. J'en ai pas la preuve, donc comme je suis un journaliste intègre, j'éviterai d'approfondir le sujet pour l'instant. Le débat, de toute façon, sur la prostitution déclenche des réactions vives, violentes. Et tout particulièrement cette loi, parce que c'est la première fois qu'une loi féministe, parce que c'est une loi féministe, intervient précisément, très directement, sur un privilège masculin, et retire ce privilège. Ce privilège étant, les hommes, ou plutôt les femmes, sont tenus de mettre à disposition, à être à la disposition sexuelle des hommes. Parce que c'est ça que ça dit, socialement, la prostitution. C'est la femme, des femmes sont à la disposition sexuelle d'hommes. Cette loi dit non, ça n'est plus possible. Et je pense que c'est aussi ça qui explique cette hargne qu'il y a dans le camp réglementariste. C'est que d'un seul coup, on nous retire quelque chose, on nous retire un privilège. La prostitution, c'est pas le plus vieux métier du monde, c'est le plus vieux privilège du monde. Et c'est un privilège. Exclusivement masculin, parce que la prostitution, ça s'adresse aux hommes, y compris la prostitution masculine. Donc c'est pour ça aussi que... Et là, le Stras, évidemment, est enragé, parce que c'est aussi, là aussi, c'est sans doute un des indices qui démontre que le Stras ne défend pas les droits des personnes prostituées, mais les droits de ceux qui les exploitent.
Donc le but de votre association, c'est de continuer à vous battre pour l'abolition de la prostitution. Combien d'abonnés vous avez actuellement, de membres, et quelles sont les actions à venir encore ?
Alors pour l'instant, nous sommes présents, donc c'est un réseau, hein, c'est sous forme de réseau, donc il suffit d'aller sur notre site, de signer notre manifeste, évidemment. Nous sommes dans 52 pays. Nous sommes assez bien représentés dans les pays réglementaristes, ce qui est symptomatique. Nous sommes environ 2500 signataires. Pour l'instant, l'association est moins nombreuse, parce que d'abord ça demande une cotisation, donc bon, c'est pas la même chose que de signer simplement.
C'est-à-dire, c'est combien ?
C'est 20 euros. C'est 20 euros, c'est symbolique. On peut donner plus, hein, bien sûr. Nous sommes évidemment engagés sur la question de la prostitution et sur la question de l'abolition de la prostitution. Mais une fois que, comme nous l'espérons, la loi sera adoptée, il faudra évidemment qu'on continue le travail pédagogique qu'il y aura à faire, parce qu'une loi, ça ne suffit pas. Une loi, c'est un début, mais après, il faut travailler. Mais... pas uniquement. Nous n'avons pas l'intention de rester uniquement sur le thème de la prostitution. On va, disons, élargir, pour aller vite, à l'égalité. L'égalité entre les femmes et les hommes, évidemment. Et puis, sans doute, travailler sur quelque chose qui commence à prendre sournoisement racine en France. C'est assez nouveau, qui est le masculinisme. Il n'y a plus seulement que des gens comme Zemmour ou comme quelques guignols à droite à gauche, enfin surtout à droite, qui tiennent des propos masculinistes mais qui ont un vrai discours masculiniste. Ça commence doucement à se structurer. On commence à voir les pères en colère qui grimpent au-dessus des grues. Il y a évidemment une complaisance parfois tout à fait assumée, le plus souvent par paresse, de mes petits confrères journalistes, parce que c'est rigolo d'aller voir des gens qui sont au dégru, et puis voilà, c'est ludique, c'est des bons clients, médiatiquement c'est des bons clients. Mais on note quand même que chez certains intellectuels, et pas uniquement chez les intellectuels de droite, ça commence à se structurer, le discours masculiniste, c'est-à-dire un discours anti-féministe. C'est le retour de bâton, en fait. C'est presque rassurant. Ça veut dire aussi que, quelque part, bah, le discours féministe a pris vraiment, peut-être pas racine, mais en partie quand même, dans le discours social. Mais il faut être vigilant, parce que il faut savoir comment on contre ce discours, quels arguments opposer à cette forme assez nouvelle d'argumentaire en France. C'est très courant au Canada, c'est très courant aux États-Unis. beaucoup moins chez nous.
Merci. Claudine Le Gardinier, journaliste, fervente militante pour l'abolitionnisme de la prostitution également. Vous avez fait plusieurs ouvrages sur le sujet, vous avez rencontré beaucoup de prostituées et des clients aussi.
Mon intérêt pour la question vient d'abord de mes rencontres avec des femmes prostituées. Pas que des femmes d'ailleurs, des hommes aussi, même des personnes transsexuelles, mais évidemment une majorité de femmes, puisque ce sont les femmes qui payent le tribut le plus lourd à la prostitution. Et comme on disait à une époque, d'où parlez-vous ? Moi je parle d'abord depuis leur parole à elles, qu'elles me confient, et qui pour moi a été une véritable révélation et un bouleversement. C'est-à-dire que la première fois que j'ai, en tant que journaliste, recueilli le témoignage d'une femme prostituée, je m'attendais un peu à une martienne. Vous savez, la prostituée, elle est construite comme l'autre, la différente. Et j'ai rencontré la même que moi, mais qui avait un itinéraire extrêmement lourd et un parcours fracassé. Et j'ignore pourquoi cette question m'a autant prise à la gorge, mais toujours est-il que ce premier témoignage remonte à loin et que je continue d'en recueillir énormément. Et que encore dernièrement, le dernier témoignage que j'ai recueilli, c'est une femme qui sort des bars belges où allaient tous ces Lillois, avocats, hommes d'affaires, etc., dont on a parlé à une époque pour une autre affaire bien connue. Et ce qu'elle m'a décrit de cet endroit, qui est un bordel de luxe, c'est irrespirable. Moi, ce que j'entends depuis des années, c'est irrespirable. La violence qui est vécue là-dedans, le mépris qu'elle subit, les humiliations, les traumatismes qu'elle garde, c'est ça pour moi le premier sujet. Et c'est en partant de ça que j'ai commencé à m'intéresser à tout le reste, c'est-à-dire à la logique de système, à la responsabilité évidemment des hommes qui les exploitent sexuellement, avec toutes les bonnes justifications qui sont parfaitement construites dans leur tête. Et de là, donc je me suis intéressée aux clients, et en effet, comme le mouvement d'Uni a travaillé sur une enquête il y a quelques années sur des hommes clients, c'est vrai que j'ai regardé cette question aussi d'un peu plus près, et je me suis aussi intéressée à d'autres enquêtes menées ailleurs en Europe et même aux États-Unis, c'est-à-dire pour commencer, puisque c'est quand même une nouveauté. C'est-à-dire que tout ce travail qui est fait sur les clients, c'est quelque chose qui date des années 80 en Suède, puisque c'est en Suède que les premières enquêtes en Europe ont été menées. Et après, je dirais que c'est vraiment depuis les années 2000 que la question du client est arrivée d'ailleurs dans le champ politique et qu'on a commencé vraiment à travailler sur cette question-là. Et c'est vrai qu'on découvre des choses tout à fait passionnantes et puis que surtout, ça réduit complètement à néant toutes les croyances ridicules du bistrot du coin sur les pulsions irrépressibles. Il en faut parce qu'ils sont trop timides, ils sont trop seuls, ils sont trop malheureux. Enfin, tout ça est complètement balayé. Ce sont des clichés qui ne correspondent pas du tout au réel. Mais en revanche, ce qui se joue, c'est toute une idée des femmes, une idée des hommes, une idée de la sexualité, du masculin, du féminin. Et donc, finalement, c'est passionnant pour l'ensemble de la société, d'ailleurs, de voir comment on est encore traversé, et en tout cas, comment ces hommes sont encore traversés par des idées, je vais le dire d'ailleurs, des idées extrêmement réactionnaires et puis extrêmement datées dans une société qui aujourd'hui se targue de travailler pour l'égalité et contre les violences. Donc on voit bien à quel point ils sont le symptôme enfin d'un décalage finalement avec la société que on défend aujourd'hui, que tout le monde essaie de défendre aujourd'hui, en tout cas beaucoup de gens. Donc c'est vraiment un sujet qui a l'air d'être un sujet marginal, et en fait il me semble moi que c'est un sujet absolument central, et que d'ailleurs si les réactions sont si violentes autour de cette question, c'est bien parce qu'on s'attaque là à un noyau dur. C'est-à-dire que les féministes, les femmes ont gagné un certain nombre de combats, rien n'est gagné d'ailleurs, mais enfin elles ont quand même progressé, et là je crois vraiment qu'on est arrivé au noyau, c'est-à-dire à quelque chose, quand vraiment on se sera vraiment saisi de ce noyau-là, à savoir ce droit très archaïque des hommes ou d'un certain nombre d'hommes de disposer du corps des femmes, c'est-à-dire de continuer à le faire, mais cette fois par l'argent, si c'est plus par la violence, je crois que là on aura vraiment déboulonné quelque chose de fondamental et on pourra vraiment avancer vers une société certainement plus égalitaire.
On s'est battu beaucoup, enfin depuis longtemps, pour les droits des femmes et qu'il y a régulièrement des périodes de régression où c'est pire que tout, et puis par rapport au film X aussi, enfin le cinéma est devenu, c'est de la prostitution autorisée, il y a certains films qui sont pas dits pornographiques mais qui, ça va quand même assez loin.
Mais tout ce qui est pornographie, tout ce qu'on dit sur l'hypersexualisation des jeunes filles, etc., tout ça, c'est vrai que c'est indissociable de la question de la prostitution. Et d'ailleurs, moi, je vois bien actuellement dans des entretiens que j'ai avec des jeunes femmes, à quel point toute cette mouvance porno hypersexualisée nourrit, fabrique ce système. C'est-à-dire, c'est vraiment une manière de formater les jeunes femmes pour pouvoir en faire des produits éventuellement vendables. Et on en voit aujourd'hui des toutes jeunes, et pas seulement des étudiantes, on parle beaucoup de la prostitution étudiante, mais en tout cas des toutes jeunes femmes qui pensent que ça va être cool finalement de devenir escorte, avec trois paires de guillemets, qui pensent que c'est anodin, que c'est pas bien méchant, que comme elles n'ont pas froid aux yeux et que sexuellement effectivement elles ont été un peu plus libres que les générations d'avant, elles imaginent que ça va pas poser de problème. Et c'est là que c'est un véritable piège et qu'on en voit les dégâts qui sont considérables, considérables, avec vraiment des femmes qui se retrouvent totalement abîmées, qui ont été humiliées, qui se font totalement manipulées. Je pourrais en raconter des histoires de ce type-là et qui après se cachent parce qu'elles ont honte en plus, c'est-à-dire que c'est elles qui ont honte, c'est elles qui se sentent coupables alors qu'en fait, en général, elles sont fait piéger et par des clients et par des proxénètes. Et donc, c'est très important ce sujet parce que c'est vraiment une manière de formater des femmes pour la prostitution. Mais alors par rapport aux avancées et aux reculs, moi ce qui me frappe c'est que d'un côté on parle beaucoup des régressions aujourd'hui et on les voit à l'œuvre avec les intégrismes, avec ce qui se passe en Espagne, etc. Mais ce qui est toujours très étonnant c'est qu'à la fois on est devant plein de régressions et on est devant des avancées aussi. Pour moi c'est indéniable et je trouve vraiment que toute cette avancée sur la prostitution, mais c'est sans précédent. Enfin, je vais vous dire, je croyais pas voir ça de mon vivant. Non mais franchement, l'Assemblée nationale qui a voté en novembre dernier ou début décembre avec, je dirais, quand même un bel élan. Franchement, je ne pensais pas que c'était possible dans ce pays. Or, ça l'est. Et c'est vrai que le débat a monté. Le débat a changé. Les termes du débat ont changé. Depuis 4-5 ans, on ne traite plus du tout le sujet de la même façon. Et pour moi, c'est vraiment extrêmement encourageant. Il y a encore 4-5 ans, on nous aurait fait le coup. Le débat, ça aurait été est-ce qu'il faut rouvrir ou pas les bordels. Or, les débats, j'ai tout relu, tous les débats de l'Assemblée nationale, on n'en parle même plus. Et maintenant, on est passé complètement à autre chose, à savoir à la responsabilité des clients dans ce système qui engendre des trafics sur la planète entière et qui réduit vraiment à un état de vraie victime un grand nombre de femmes. Je crois vraiment qu'enfin, on a attaqué le sujet de plein fouet, de front. Et ça, c'est vraiment nouveau et c'est très encourageant.
Alors, on parle beaucoup de responsabilisation et pénalisation du client. Ça veut dire quoi par rapport au proxénète ?
Alors, bah pour l'instant, dans la loi, c'est donc le proxénète qui, lui, était pénalisé. Là-dessus, je pense que, ah, si, on trouve, à part le Stras veut enlever le proxénétisme du code pénal, quand même, hein, ça, il faut le savoir. Mais sinon, je dirais que les gens ne sont quand même pas trop choqués par le fait qu'on pénalise des proxénètes. Maintenant, le proxénète, en effet, est évidemment celui qui exploite, qui violente la personne prostituée. Mais maintenant, ce qu'on découvre, justement, en travaillant en profondeur sur ce sujet, c'est que le client aussi, le client est le premier agresseur des personnes prostituées. Les violences qui sont vécues dans la prostitution, en fait, elles ne sont pas connues parce qu'elles ne sont pas dites et parce que ces femmes se taisent. Mais voilà quelque chose qui est en train d'être mis à jour et on ne peut plus faire comme si on ne le savait pas. On ne peut plus supporter la violence sous prétexte que c'est derrière des murs, sous prétexte que c'est à huis clos et que finalement, du moment que ça ne fait pas de bruit sur la place publique, tout va bien. Donc tout ça commence à sortir. On préférait avant croire que c'était d'ordre privé, mais non, c'est d'ordre public et politique. Ça commence à se savoir et on ne peut plus l'ignorer. Donc on est obligé de placer ces hommes face à leurs responsabilités et même les textes internationaux maintenant le disent, il faut décourager la demande pour faire diminuer la traite des femmes aujourd'hui, mais c'est un phénomène sans précédent dans l'histoire du monde. À l'échelle de la planète, c'est absolument dramatique. Donc c'est tout ça qu'il faut enfin regarder en face et on ne peut plus contourner le fait de placer ces hommes face à leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'ils ont à répondre des violences dont ils se rendent coupables et puis du fait d'être à l'origine du développement de la traite des femmes dans le monde. Donc l'heure est venue en effet de les mettre face à ses responsabilités, de les informer et de leur dire, eh bien, si vous persévérez, il y aura une forme de sanction. Il ne s'agit pas de les mettre en prison. Hein.
Alors, on parle en France de prostituées entre 18 et 20 000 par rapport à l'Allemagne qui en compte 400 000 et qui devient, les proxénètes deviennent de véritables chefs d'entreprise et se targuent d'avoir des filles pas chères, c'est le discount du sexe, ça fait peur.
Oui, alors pour ce qui est des chiffres, alors moi personnellement je ne donnerai aucun chiffre parce que je suis bien incapable d'en donner. Pour ce qui est des 18-20 000 en France qu'on nous sert depuis, allez, 30 ans, je doute vraiment que ce soit un chiffre qui soit à la hauteur de la réalité. À mon seul niveau, quand je vois le nombre de femmes françaises que je rencontre, qui ont besoin de parler, qui racontent comment elles sont devenues escortes sur Internet ou prostituées d'une manière ou d'une autre, je suis frappée par leur nombre. Et je pense vraiment que cette parole va sortir et qu'on va découvrir qu'il y a beaucoup plus de prostitution qu'on ne pense. Tout un tas de formes de prostitution, y compris des gamines dans des banlieues, et pas que dans des banlieues d'ailleurs. Je pense que c'est, sans vouloir être alarmiste, c'est quelque chose qui s'est quand même profondément banalisé répandue. La situation de crise ajoutée à toutes les violences que vivent les femmes et qui donc formatent bien le passage à la prostitution, tout ça à mon avis fait que les chiffres officiels donnés par l'OCRET, Office Central de Répression de la Traite des Êtres Humains, sont très au-dessous de la réalité. Et je crois d'ailleurs que toutes les associations sont d'accord là-dessus pour dire que c'est complètement sous-estimé. C'est certainement sous-estimé et j'insiste sur le fait qu'on parle beaucoup des étrangères, et on a raison parce qu'il y a sans doute une majorité d'étrangères, mais il y a de plus en plus de Françaises. Et je crois qu'à la limite, le jour où les gens vont se rendre compte de la proximité de ce sujet par rapport à nos propres vies, par rapport à notre propre société, peut-être que là, ils vont s'en alarmer davantage, parce que c'était pratique, tant que ce n'était que des Nigérianes et des filles de l'Est, vous savez, en un seul mot, filles de l'Est, c'était pas trop gênant, mais il se trouve que maintenant, le danger se rapproche très très franchement, et peut-être que ça va aussi être une occasion de devenir plus conscient de ce qui se passe.
Alors vous qui avez rencontré énormément de prostituées, qu'en est-il de la reconversion? Parce que c'est pas facile de sortir des femmes de la prostitution, parce que c'est quand même, malgré toutes les violences, une source de revenus. On peut pas leur proposer une heure de ménage ou à gagner 9 euros de l'heure.
Oui, mais on pense toujours à l'argent quand on parle de sortir de la prostitution. Or, ce n'est même pas, je ne dis pas que ce n'est pas un problème, évidemment que c'est un problème capital, mais ce n'est pas l'essentiel. Et moi, toutes celles que je rencontre qui sont dans la prostitution et qui donneraient tout pour en sortir, c'est beaucoup plus compliqué qu'une simple histoire d'argent. Je vais vous citer un exemple, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler. Cette femme qui sort des bars belges m'expliquait qu'elle était chef d'entreprise avant d'être devenue prostituée. Elle a contacté Pôle emploi, elle avait un rendez-vous pour se présenter auprès justement de chef d'entreprise pour un emploi, et elle m'a expliqué qu'elle a préparé ce rendez-vous et elle n'a jamais pu y aller. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'elle rencontre des hommes. Parce qu'elle ne supporte plus la présence masculine, parce qu'elle est traumatisée par ce qu'elle a vécu, et parce qu'elle vit avec le risque de rencontrer un ancien client. Et que donc, elle n'ose plus aller à aucun rendez-vous, et elle dit « je suis confinée chez moi, j'ai peur de tout ». Alors, elle fait des cauchemars, parce que ce qu'elle a vécu dans ce bar, c'était insupportable, porte verrouillée, 500 clients par mois, enfin quelque chose d'absolument épouvantable, et elle est brisée. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'elle se reconstruise complètement. Donc, c'est pas tant, je dirais, c'est une affaire d'argent, mais c'est tellement plus difficile que ça. C'est tellement plus difficile que ça. Il suffit pas seulement de retrouver un emploi avec un bon salaire. Il faut une reconstruction. C'est pour ça que cette loi pourrait nous aider à mettre en place des réponses au niveau des psys. Et puis, c'est le mépris qu'elle rencontre. Elle a voulu un jour, cette femme, aller porter plainte à la gendarmerie pour une raison qui serait trop longue à expliquer. Elle est arrivée devant une femme gendarme qui l'a injuriée, qui lui a dit « c'est à cause de femmes comme vous que mon mari me trompe ». Voilà comment elles sont considérées. Elle est repartie. Et une autre fois où elle a aussi voulu porter plainte à la police, à Lille en l'occurrence, elle m'a dit qu'elle est rentrée dans le commissariat, elle a regardé les visages des policiers, elle a dit d'accord, elle en a reconnu trois, elle est ressortie et elle m'a dit ça passe envie de porter plainte. Eh bien oui, ils étaient clients. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut remettre en place. Et c'est encore pire qu'une simple question économique, une simple question d'argent.
Un reportage puissant signé Odile Frison. Odile, on sort pas indemne quand même de ce genre de discussion. Hein.
Non, ça interpelle vraiment les consciences et de voir le point de vue des femmes et des hommes sur le sujet. C'est quand même pas simple, c'est pas réglé, mais c'est en bonne voie. Voilà.
On va signaler que ce reportage, bien sûr, et cette interview est disponible sur notre site internet www.frequencemistral.net. Peut-être donner les coordonnées de Zéro Macho.
Alors oui, il y a un site www.zeromachoattaché.eu.
Pour avoir de plus amples renseignements. Merci encore Odile, et ce fut un plaisir de vous recevoir ici même à Manosque. À bientôt.
Merci François, à bientôt.